Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, il y a beaucoup de fausses idées en ce qui concerne la foi et aussi son contraire, qui est l'incrédulité. Tellement souvent, l'amalgame est fait par beaucoup entre foi, religion, croyance, voire crédulité et superstition, alors que la définition de la foi est très différente des autres. De même pour l'incrédulité, dont la gravité, la responsabilité et les conséquences sont largement sous-estimées. L'incrédulité doit être dénoncée avec la dernière énergie, car elle fait Dieu menteur, elle met le doute sur la vérité, la fiabilité et l'honnêteté de Dieu. Elle enlève toute force et toute autorité à la parole de Dieu, empêchant de saisir les promesses de Dieu, empêchant les miracles divins de s'accomplir, empêchant les prières d'être exaucées. Mais non seulement cela, car elle pollue et elle détruit toutes sortes d'autres domaines de notre existence et de nos relations. Il n'y a qu'une réelle et profonde repentance qui puisse nous y faire échapper et passer dans le domaine de la foi. Et là, combien tout est différent. Quelle espérance nouvelle et glorieuse dans notre cœur. Quel secours d'en haut, même dans les situations les plus désespérées. Quel merveilleux exaucement aux prières. Combien on réalise alors que tout est possible à Dieu, que tout est possible à celui qui croit. Que nous puissions donc, chacun et chacune d'entre nous, refuser et rejeter l'incrédulité sous toutes ses formes et entrer dans la vie de la foi et marcher dans la voie de la foi qui est celle du salut et de la pleine approbation de Dieu. Voici un témoignage. Un témoignage d'un Israélite qui a rencontré Jésus. Et voilà ses propres paroles. Chers amis, je lis dans l'évangile de Jean ce passage. Nous avons trouvé le Messie. C'est dans Jean 1, verset 41. Ce sont là les paroles d'André, frère de Simon-Pierre, auquel il vint annoncer avec joie cette merveilleuse nouvelle. Et c'est avec non moins de joie que nous aussi, ma compagne et moi-même, nous voulons vous dire, nous avons enfin trouvé le Messie. Car israélites tous deux, et de plus très religieux et très pratiquants, nous étions de ceux qui détestaient et méprisaient Jésus-Christ, ayant appris dès notre enfance à le considérer comme un renégat et un imposteur. Dans notre égarement, nous étions ses ennemis. Et il était pour nous celui dont parle le prophète Ésaïe, celui dont on s'est profondément détourné. C'est dans Ésaïe 31 et au verset 6. Cependant, son amour nous cherchait, et le moment béni où il allait pouvoir se révéler à notre âme en détresse approchait rapidement. Une grande épreuve fondit sur notre foyer. Ma femme ayant été atteinte d'une tumeur au pied gauche et d'une grave décalcification, fut obligé d'entrer à l'hôpital. Nos enfants, dont je ne pouvais m'occuper, tant à cause de leur jeune âge qu'en raison de mon travail, furent placés, et je me trouvais seul en face de ma détresse. Cette lamentable situation me conduisit à me plonger dans d'amères pensées, même jusqu'à douter de l'existence de Dieu. Plus tard, ma femme revint à la maison, mais non guérie, et presque aussitôt, un mal nouveau la frappa sous une forme d'eczéma purulent qui transforma tout son corps en une affreuse plaie. C'était à désespérer de tout, car la coupe de nos infortunes était pleine. Et ce fut précisément le moment choisi par le Seigneur pour se révéler à nous. Une voisine, allant à des réunions où, disait-elle, on priait pour la guérison des malades, me proposa de faire prier pour mon épouse. Quelques jours plus tard, l'eczéma disparaissait complètement. Cette remarquable guérison lui donna le désir de se rendre à tout prix à ses assemblées. Après bien des réticences, j'acceptai de l'y conduire. Elle ne pouvait marcher à cause de sa tumeur au pied. C'est dans mes bras que je la portai de la voiture qui l'avait amenée jusque dans la salle. J'assistais donc à cette « conférence » entre guillemets, d'un genre tout à fait nouveau pour moi, en m'efforçant de me cacher afin de ne pas être vu de quelque éventuelle connaissance, tant j'avais honte de me trouver dans cet endroit. Je fus surpris d'entendre le prédicateur affirmer ce que j'avais nié jusqu'alors de toutes mes forces, savoir que Jésus-Christ était bien le Messie annoncé par les Écritures, celui au nom de qui quiconque peut être sauvé. Puis ce fut le moment de l'imposition des mains aux malades, conformément à l'ordre donné par le Seigneur à ses disciples, dans Marc chapitre 16, verset 18. Quelle ne fut pas ma stupeur lorsque je vis ma femme, au moment où l'on pria pour elle, se lever droite sur ses pieds, puis faire quelques pas au milieu de l'émotion générale. Elle était arrivée là dans la complète incapacité de faire le moindre pas, et elle put repartir par ses propres moyens. Combien je bénis le Seigneur en pensant à cette précieuse bénédiction. Cette guérison nous sauva de l'abîme du désespoir, faisant germer la paix, la joie et l'espérance dans nos cœurs. Joyeux de cette guérison, nous emportâmes un Nouveau Testament qui nous fut offert. Je me mis à le lire avec intérêt. Entre-temps, tout changeait dans notre foyer libéré de la maladie et de son cortège de découragement. Moralement aussi, je voyais mon épouse transformée. Elle chantait des cantiques continuellement au cours de ses occupations dans le ménage. Elle était heureuse, sentant son cœur comme délivré d'un grand poids. Je me sentais moi-même devenir un autre homme, et je me rends compte maintenant que c'est la lecture assidue de ce Nouveau Testament qui en fut la cause. Par cette lecture, Jésus devenait pour moi un personnage familier. Cependant, je n'étais pas encore persuadé de sa divinité, tant j'étais imprégné de mon éducation israélite. Pourtant, ma haine à son égard s'était dissipée. Je lui vouais même une grande reconnaissance pour tout le bien que nous avions reçu en son nom. Mais je désirais plus encore. Il fallait que soit réglée cette solennelle question qui me hantait sans cesse. Qui était réellement Jésus ? Entre-temps, ma femme, pleinement convaincue qu'il était son sauveur, confessa son nom dans les eaux du baptême, ainsi que cela est ordonné dans l'Évangile. Ce fut comme un aiguillon de plus pour m'inciter à hâter mes recherches. Je me procurai alors un exemplaire de l'Ancien Testament dans la version du rabbinat français. Un certain jour, bien décidé à découvrir la vérité sur Jésus, je me réfugiai dans ma chambre et je suppliai Dieu de me montrer si Jésus était le Messie ou non. Dans ma prière, je lui dis aussi que j'étais prêt à lui obéir entièrement et à suivre la voie qu'il me montrerait, quelle qu'elle soit, bien décidé à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, comme il est dit dans Actes 5, verset 29. Puis j'ouvris sa parole, faisant des recherches dans presque tous les livres qui la composent. Ce fut prodigieux, à tel point que je fus conduit vers les textes concernant le Messie qui devait venir. Et non moins prodigieuse fut l'éclatante lumière qui les éclairait à mes yeux. Je vis avec un réel émerveillement comme toutes ces prophéties s'appliquaient à Jésus et ne pouvaient s'appliquer qu'à lui seul. Tout ce qui, dans bien des endroits de la version rabbinique, était mentionné comme, entre guillemets, « passage obscur », devenait lumineux pour moi. Dès ce moment, une profonde certitude envahit mon cœur et ma vie. Jésus était incontestablement le Messie qui devait venir, et je compris pourquoi il dut mourir d'une manière aussi ignominieuse sur le calvaire. C'était afin de me racheter par son sang précieux. Il était l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Tout cela n'était-il pas annoncé par le prophète Ésaïe au 53e chapitre ? Sans plus tarder, je suivis ma femme sur la voie bénie où elle m'avait précédé. Je confessai à mon tour le nom de mon Messie et mon Sauveur dans les eaux du baptême. Bien des conséquences s'en suivirent. Nous rompîmes définitivement avec toutes les servitudes de la loi et de la tradition. Nous étions libres de cette glorieuse liberté des enfants de Dieu, dont il est parlé dans Romains 8, verset 21, acquise par le précieux sang de notre Sauveur au calvaire. Par voie de conséquence, nous perdîmes la plupart de nos amis juifs, et même notre propre famille se détourna de nous. Mais combien ineffable fut la compensation accordée par le Seigneur, qui nous ouvrit la précieuse famille de ses rachetés, multipliant par milliers les frères, sœurs, parents et amis qui nous avaient abandonnés. Il remplit ainsi nos cœurs d'une joie et d'une paix profonde, et nous pûmes rester fermes dans la foi au Sauveur que nous venions de rencontrer. Maintenant, le Seigneur a comblé mes vœux, en m'appelant au saint ministère, et ma suprême ambition est de travailler pour lui avec toute la force qu'il voudra me communiquer par son Saint-Esprit. Combien les paroles de l'apôtre Paul sont le reflet de mes propres sentiments. Lorsqu'il dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. 1 Épître à Timothée, chapitre 1, versets 12 à 15, et c'est signé Paul Genassia, qui a été donc un serviteur de Dieu, fidèle à la parole de Dieu pendant de longues années, et qui maintenant est auprès du Seigneur depuis quelques années. Voilà, frères et sœurs, un témoignage des belles œuvres du Seigneur dans les cœurs, dans les corps et dans les vies. Ce Seigneur dont nous croyons qu'il est encore tout-puissant pour agir aujourd'hui, et dont nous croyons qu'il veut encore soutenir et accompagner sa parole, que nous voulons ouvrir ce soir encore dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 7. Et nous lirons à partir du verset 14, mais avant cela nous voulons prier. Béni sois-tu, Seigneur, pour les belles et grandes choses que tu réalises pour les uns, pour les autres, pour tous ceux qui se tournent vers toi, pour tous ceux qui se confient en toi, pour tous ceux qui, réalisant ta bonté, ta miséricorde et ta grâce, veulent bien t'ouvrir leur cœur pour t'y mettre toi comme leur sauveur et leur Seigneur. Et qu'il puisse en être ainsi aussi dans plusieurs cœurs, par le moyen de ta parole, dans ces instants encore que tu nous donnes ensemble. Sois béni notre Dieu. Amen. Voilà, je ne vous relirai pas le récit depuis le début du chapitre 7, qui nous parle donc de la promesse que Dieu avait faite par le moyen du prophète Élisée de délivrer la ville de Samarie dans la famine parce qu'assiégée depuis longtemps par les Syriens. Et il y avait là simplement un officier qui avait manifesté son incrédulité par rapport à la parole du prophète Élisée. Et nous lisons ensemble maintenant depuis le verset 14. On prit deux chars avec des chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant « Allez et voyez ». Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain et voici toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un sicle et deux mesures d'orge pour un sicle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, « On aura deux mesures d'orge pour un sicle et une mesure de fleurs de farine pour un sicle, demain à 7 heures à la porte de Samarie. » Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée avait dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Élisée avait dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Voilà, mes amis, vous savez, un homme sage peut être un moyen de délivrance pour une ville entière. Un seul homme juste peut être le moyen de salut pour des milliers d'autres. Les justes sont véritablement le sel de la terre, les moyens de préservation même des méchants. Et sans ceux qui sont pieux pour la conserver, la race humaine serait complètement détruite, probablement depuis longtemps. Dans la cité de Samarie, il y avait un homme juste, Élisée, le serviteur de Dieu. La piété était complètement éteinte à la cour. Le roi était un pécheur de la pire espèce. Il marchait dans les voies de son père Achab et il s'était fait des faux dieux. Le peuple de Samarie était tombé, comme leur monarque. Ils avaient abandonné l'Éternel. Et en idolâtrie mauvaise, ils se prosternaient devant les dieux des païens jusqu'à ce que l'ancienne malédiction du mont Ébal, décrite dans Deutéronome 28, versets 56 à 58, s'accomplisse sur eux, là où il est écrit « La femme d'entre vous est la plus délicate et la plus habituée à la mollesse. » qui, par mollesse et par délicatesse, n'essayait pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein. Pour son fils et pour sa fille, elle ne leur donnera rien de l'arrière-fait sorti d'entre ses pieds et des enfants qu'elle mettra au monde, car manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans tes portes. » C'était là la terrible situation de Samarie et de ses habitants à ce moment-là. Et dans cette affreuse extrémité, un homme de Dieu fut le moyen du salut. Ce seul grain de sel préserva la cité tout entière. Ce seul guerrier de Dieu fut le moyen de délivrance pour toute une multitude assiégée. Pour l'amour d'Élisée, Dieu envoya la promesse que le lendemain, de la nourriture qui ne pouvait être obtenue à aucun prix serait vendue au tarif le plus bas, et ceci à la porte même de Samarie. Nous pouvons nous imaginer la joie de cette foule lorsqu'elle entendit la prédiction de l'homme de Dieu. Ils savaient tous qu'Élisée était un prophète de l'Éternel. Il avait des confirmations divines. Toutes ses prophéties passées s'étaient accomplies. Ils savaient qu'il était un homme envoyé de Dieu, un messager vivant de l'Éternel. Certainement, les yeux de cette foule, affamée et amaigrie, ont dû briller de bonheur à la pensée d'une délivrance aussi rapide de la famine. Demain, demain, notre faim sera comblée et nous pourrons festoyer à satiété. Cependant, l'officier sur le bras duquel le roi s'appuyait exprima son incrédulité. Nous ne lisons pas que c'est un des membres du petit peuple qui fit cela, mais c'est un aristocrate. Il est vrai que ce ne sont pas souvent les grands de la terre qui se convertissent et se confient en Dieu. Cet homme important dit « Impossible !» Et avec une insulte pour le prophète, il ajouta « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Son péché réalise en cela que malgré les sceaux répétés du ministère d'Élisée, il ne voulut pas croire les assurances prononcées par le prophète de la part du Seigneur. Il avait certainement vu la défaite miraculeuse de Moab dont il nous est parlé dans le chapitre 3 du verset 1 à 27, qui avait été là aussi annoncée par le prophète. Il avait été stupéfait à la nouvelle de la résurrection du fils de la Sunamite, dont il nous est parlé au chapitre 4 du verset 8 au verset 37. Il savait très bien qu'Élisée avait dévoilé les secrets de Ben-Hadad et frappé ses troupes d'aveuglement, c'est dans le chapitre 6 du verset 8 au verset 23. Et il connaissait certainement l'histoire de la veuve dont l'huile avait rempli tous les récipients, ce qui lui avait permis de racheter ses fils, ce dont il est parlé au chapitre 4 du verset 1 à 7. Et certainement, la guérison de Naaman le Syrien, chef de l'armée du roi de Syrie, avait été un grand sujet de conversation à la cour et à l'état-major. Chapitre 5, donc, versets 1 à 27. Et pourtant, face à ces évidences accumulées, il douta encore. Il prononça d'une façon insultante que le ciel devait devenir un lieu ouvert avant que la promesse ne puisse s'accomplir. Là-dessus, Dieu prononça son malheur par la parole de la par la bouche même de l'homme qui venait d'annoncer la promesse. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et la providence, qui accomplit toujours la prophétie, comme le papier prend l'empreinte du tampon, détruisit l'homme. Piétiné dans les rues de Samarie, il périt à la porte, voyant l'abondance, mais ne pouvant y goûter. Peut-être son train était-il orgueilleux et insultant pour le peuple. Où a-t-il essayé de retenir la marée humaine? Ou fût-ce un simple accident? Ainsi, il vit la prophétie s'accomplir, mais il n'en jouit pas. Ce soir, il est bon que notre attention soit attirée sur deux choses. Le péché de l'homme et son châtiment. Nous ne dirons pas grand-chose de cet homme-là, puisque nous en avons détaillé les circonstances, mais nous voulons parler du péché de l'incrédulité et de ses conséquences. Et tout d'abord donc, dans un premier chapitre, le péché de l'incrédulité. Dans ce cas particulier, le doute prit la forme d'un manque de confiance dans la vérité divine ou dans la puissance de Dieu. Mais l'incrédulité a plus de phases que la lune et plus de couleurs que le caméléon. Le diable se manifeste tantôt sous une apparence, tantôt sous une autre, et c'est certainement vrai aussi de sa première née qui est l'incrédulité. Parfois, nous pouvons voir l'incrédulité habillée comme un ange de lumière. Elle s'appelle elle-même du nom d'humilité en disant « Je ne voudrais pas être présomptueux. Je n'ose pas penser que Dieu puisse me pardonner. Je suis un trop grand pécheur. Ah, c'est de l'incrédulité. À d'autres moments, nous pouvons détecter l'incrédulité sous la forme d'un doute dans l'immuabilité de Dieu. Le Seigneur m'a aimé, mais il va peut-être me rejeter demain. Il m'a aidé hier, mais va-t-il me secourir dans ma prochaine affliction ? Nous luttons pour être débarrassés de notre fardeau, mais n'y arrivons pas. Alors nous imaginons que le bras du Seigneur est aussi court que le nôtre. Nous ne croyons pas qu'il puisse sauver et délivrer. Nous nous débattons dans le filet de nos difficultés qui se resserrent de plus en plus autour de nous. Et puisque les hommes ne peuvent agir pour nous, nous pensons qu'il en est de même pour Dieu. Ah, combien l'incrédulité est un péché, et un péché grave. Dans l'évangile de Jean, chapitre 16, au verset 8 et 9, en parlant du Saint-Esprit, il est dit de lui qu'il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en Christ. Dans l'évangile de Jean encore, au chapitre 3, verset 19, il est écrit « Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. » Et oui, c'est encore l'incrédulité. Et au verset précédent, verset 18, il est écrit encore « Celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Et ensemble, considérons donc maintenant la nature extrêmement mauvaise du péché d'incrédulité. Alors plusieurs choses. Déjà, voici la première. Ce péché est extrêmement mauvais parce qu'il est, en quelque sorte, le parent de toute autre forme d'iniquité. Il n'existe pas de péché qui ne soit pas accompagné d'incrédulité. La chute de l'homme lui doit beaucoup. C'est sur ce point que le diable tente Ève. Dieu a-t-il réellement dit ? Il chuchote et insinue le doute. Et c'est par ce moyen que la suite des péchés vient, avec toutes leurs désastreuses conséquences, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. C'est l'incrédulité qui endurcit le cœur de Pharaon. C'est elle qui fit blasphémer la langue audacieuse du Rabchaké. C'est elle qui devint déicide et assassina Christ. C'est l'incrédulité encore qui aiguise le couteau du suicide et qui en a amené beaucoup au tombeau d'une façon honteuse et ils se sont retrouvés avec du sang sur les mains devant le tribunal de leur créateur à cause de l'incrédulité. Ah, c'est le péché du diable. Et comme le diable, elle conduit et dirige tous les mauvais esprits. Il est dit de Jéroboam qu'il pécha et qu'il en fit pécher beaucoup d'autres. Et on peut dire de l'incrédulité que non seulement elle pêche elle-même, mais qu'elle fait pécher les autres. C'est elle qui est l'œuf de tous les crimes, la semence de toute iniquité. En fait, tout ce qui est mauvais et vil se retrouve dans ce seul mot, l'incrédulité. Ensuite, en deuxième, l'incrédulité non seulement accompagne, mais nourrit le péché. Comment se fait-il que les hommes puissent demeurer dans leur péché malgré tous les efforts du prédicateur ? Comment peuvent-ils entendre parler des plus terribles menaces de la justice divine et pourtant endurcir leur cœur ? Comment peuvent-ils entendre les appels les plus pressants, les plus déchirants à venir à Christ et pourtant repartir et continuer dans leur mauvaise voie ? Je vais vous le dire, c'est à cause de l'incrédulité qu'ils ne croient ni aux promesses ni aux menaces. Pendant la guerre de 14-18, quand nos sapeurs et nos mineurs allaient travailler par exemple à Verdun, ils ne pouvaient pas travailler à terrain découvert à cause des coups de feu de l'ennemi. Alors ils creusaient des tranchées, ils élevaient des remblais de terre, derrière lesquels ils pouvaient faire ce qui leur plaisait. Ainsi en est-il de l'incrédule. Le diable lui donne l'incrédulité, il la ramasse en remblais, trouve refuge derrière elle, et alors il fait tout ce qu'il veut, et va en perdition sans même s'en rendre compte. Comment se fait-il que des hommes puissent entendre et réentendre le récit de la croix du calvaire et ne pas venir à Christ ? Comment se fait-il que beaucoup n'aient pas leur cœur brisé ? Certainement, le récit du calvaire est suffisant pour briser les rochers. D'ailleurs, des rochers se fendirent quand il vit mourir Christ. Mais quand nous en parlons et quand nous le répétons, qui y prend garde ? Qui pleure à son sujet ? À considérer tous ceux qui passent et s'en vont indifférents ou touchés sans profondeur. C'est l'incrédulité qui est ce voile épais et opaque entre le Christ et le pécheur. Et ce n'est que lorsque cette incrédulité est rejetée et abandonnée que l'œuvre du salut et de la bénédiction peut s'accomplir. Une troisième chose à propos de l'incrédulité, c'est qu'elle rend l'homme incapable d'accomplir aucune bonne œuvre. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 14, verset 23, il est écrit « Ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Ce qui peut également se traduire « Ce qui n'est pas le produit de la foi est péché. » Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, il est marqué « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Vous savez, vous ne m'entendrez pas dire une parole contre la moralité. Vous ne m'entendrez jamais dire que l'honnêteté n'est pas une bonne chose ou que la sobriété n'est pas une bonne chose. Ce sont au contraire des choses tout à fait recommandables. Mais je dirais qu'elles sont comme ce qu'on a les kauris aux Indes. Les kauris, c'était des monnaies de coquillages qui, pendant un temps, avaient cours parmi les Indiens. Elles pouvaient convenir là-bas, dans quelques régions reculées, mais certainement pas en Europe, par exemple. Et ces vertus dont je viens de parler, peuvent être courantes et ont leur valeur sur la terre, mais pas là-haut. Si vous n'avez pas quelque chose de meilleur que votre bonté à présenter, vous ne pourrez jamais aller au ciel. L'humilité et la sobriété sont de très bonnes choses parmi les hommes, et plus vous en avez, mieux c'est. Et toutes ces bonnes choses réunies sans la foi ne sauraient plaire à Dieu. Des vertus sans la foi sont des péchés blanchis à la chaux. Une obéissance sans foi n'est qu'une désobéissance dorée. Ne pas croire, ne pas se confier en Christ annule tout. C'est la mouche morte qui infecte l'huile du parfumeur. C'est la mort dans le pot. Et ainsi nous voyons combien l'incrédulité est mauvaise, puisqu'elle nous empêche d'accomplir des œuvres agréables à Dieu. Apprenez le cas de Pierre. Pendant qu'il avait la foi, comme il marchait sur la mer, c'était une marche splendide, nous pouvons l'envier de fouler ainsi les rouleaux et les flots avec aisance. Ah, si la foi de Pierre avait continué, il aurait pu traverser la mer, et puis, je ne sais pas, l'Atlantique, aller jusqu'en Amérique. Mais voilà, une voix puissante qui arrive derrière lui, et il se dit « Oh, celle-là va me balayer !» Et ensuite une autre devant, il s'écrie « Oh, celle-ci va me recouvrir !» Et le voilà qui pense « Comment ai-je pu être assez présomptueux pour marcher au sommet de ces vagues ?» Et voici Pierre qui coule. La foi était la bouée de Pierre. Cela le soutenait, cela le gardait. Mais l'incrédulité l'a fait couler. Ah, la vie, et spécialement la vie d'un chrétien, consiste toujours à marcher sur l'eau. Et chaque vague voudrait l'avaler et le dévorer. Mais c'est la foi qui le fait tenir debout. C'est elle qui le maintient tout au long. Au moment où vous cessez de croire, la détresse prend pied. La voilà qui entre, et voilà que vous coulez. C'est pourquoi il vous faut rejeter absolument le doute, combattre l'incrédulité, ce si grand péché. Remarquez ensuite une quatrième chose à son sujet. Au sujet de cette incrédulité, c'est qu'elle a été sévèrement punie. Considérez les Écritures. Je vois un monde magnifique, une création admirable, des montagnes splendidement éclairées de soleil, des champs, des bois se réjouissant à cette lumière. Je vois des jeunes gens qui dansent, des jeunes filles qui chantent. Quelle belle vision, quel panorama splendide. Mais voici un vieillard, grave et vénérable, qui lève les mains pour s'écrier d'un ton solennel. Un déluge vient pour recouvrir la terre. Les sources du grand abîme vont s'ouvrir, les écluses des cieux également. Toutes choses vont être noyées. Voyez cette arche. J'ai mis 120 ans à la construire de mes propres mains. Fuyez là et vous serez sauvés. Ha ha, vieil homme, va-t'en avec tes prédications stupides. Laisse-nous nous réjouir pendant que nous le pouvons. Que le déluge vienne. Nous nous construirons une arche. Mais il n'y a pas, il n'y aura pas de déluge. Tes craintes, va dire ça aux simples d'esprit. Nous ne croyons pas à de telles choses. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, etc., etc. Voyez les incrédules qui reprennent leur danse joyeuse. Prends garde, incrédule. N'entends-tu pas ce grondement sourd? Les entrailles de la terre ont commencé à se convulser. Vois, elles se brisent avec des craquements terribles. Le ciel se déchire littéralement en deux d'un seul coup. Et un Niagara géant s'abat. Et un tsunami géant balaye tout. Jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Qu'est-ce qui amena le déluge sur la terre? L'incrédulité. Par la foi, Noé échappa au déluge. Par incrédulité, les autres furent noyés. Ah, ne savez-vous pas que c'est l'incrédulité qui empêcha Moïse et Aaron d'entrer dans le pays? Ils n'honorèrent pas Dieu, ils auraient dû simplement obéir. Ils frappèrent le rocher alors qu'ils auraient dû lui parler. Ils furent incrédules dans une circonstance cruciale. et c'est pourquoi le châtiment vint sur eux. Tout Moïse et tout Aaron qu'ils soient, pour qu'ils n'entrent pas dans le pays promis, pour lequel ils avaient pourtant travaillé. Mais laissez-moi vous emmener là où Moïse et Aaron demeurèrent, dans ce grand et affreux désert. Nous pouvons y marcher tout un temps, comme les tribus de Bédouins qui le parcourent. Et voici une carcasse blanchie par le soleil. Et en voici une autre. Et une autre encore. D'où viennent ces ossements blanchis et si nombreux? Que sont les restes de ces corps? Ici un homme, là une femme. Comment ces cadavres arrivèrent-ils d'ici? Sûrement un grand campement a dû être détruit en une seule nuit par une catastrophe, par un massacre. Mais non, ces os sont ceux d'Israël. Ces squelettes sont ceux des tribus de Jacob. Ils n'ont pas pu entrer dans le pays promis à cause de leur incrédulité. Ils ne se confièrent pas au Dieu de Jacob. Les espions leur dirent qu'ils ne pouvaient conquérir le pays. C'est l'incrédulité qui a été la cause de leur mort. Ce ne sont pas les Anakim qui détruisirent Israël, ni Amalek. Ce ne fut pas l'ouragan du désert qui les dévora. Ce n'est pas le Jourdain qui fut une barrière pour les empêcher d'entrer. Ni les Éviens, ni les Jébusiens ne les massacrèrent. Quelle malédiction prononcée sur Israël après 40 ans de marche dans le désert. Ils ne purent entrer à cause de leur incrédulité. Et on pourrait multiplier les exemples. Mais combien, sans aller plus loin, on peut voir que l'incrédulité est grave puisque si sévèrement punie. Considérez enfin, pour clore ce point, que l'incrédulité est le péché qui mène à la perdition. Il y a un péché pour lequel Christ n'a fait aucune œuvre de rachat. Mentionnez tous les péchés contenus dans le catalogue du mal et je pourrais vous montrer des personnes qui ont obtenu le pardon de Christ pour cela. Mais si vous demandez à ce que celui qui est mort dans l'incrédulité soit sauvé, la réponse c'est qu'il n'y a pas de rachat pour un tel homme. Et vous pouvez feuilleter toute la Bible, vous verrez qu'elle est formelle et unanime sur ce point. S'il avait été capable de n'importe quel autre péché, eh bien, il aurait pu être pardonné. Mais là, c'est l'exception qui le perd. Il n'a pas eu la foi. Il est sans foi et incrédule. Et c'est pour tous ceux qui sont comme lui que la perdition a été conçue. C'est leur portion, c'est leur prison. Ils en sont les prisonniers principaux. Les chaînes sont marquées à leur nom et pour toujours, ils sauront que celui qui ne croira pas sera condamné. Mais il nous faut conclure avec le châtiment de l'incrédulité, notre deuxième grand point. Et je reviens à notre texte de départ. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Combien ne pouvons voir cela se réaliser pour les incrédules, même dans l'assemblée? Ils peuvent voir de grandes choses se passer sous leurs yeux, mais ils n'en mangeront point. Un certain nombre de personnes se réunissent dans une réunion pour voir de leurs yeux. Mais je me demande si toutes peuvent manger du pain de vie que le Seigneur veut pourtant leur accorder à chacun. Ah, il y en a qui ne viennent que pour voir. Voyons ce que ce prédicateur a à dire, ce roseau secoué par le vent. Ils viennent, ils voient, et ne mangent jamais à cause de leur incrédulité. Voici quelqu'un qui est merveilleusement guéri. Quelqu'un d'autre ailleurs qui reçoit une pleine délivrance. Quelqu'un ailleurs encore qui se convertit admirablement. Un pauvre pécheur crie pour se saisir de la grâce de Dieu dans son cœur. Et ne crie pas en vain. Il naît de nouveau par le Saint-Esprit. Une grande œuvre se fait dans cette salle. Mais certains d'entre vous n'en savent rien. Aucune œuvre ne se fait dans leur cœur ni dans leur vie. Parce qu'ils pensent que c'est impossible. Ils pensent que Dieu n'est pas à l'œuvre. Et tant que vous n'abandonnerez pas, tant que vous ne confesserez pas, tant que vous ne rejetterez pas, tant que vous ne haïrez pas cette incrédulité, il ne pourra faire son œuvre en vous, ni vous bénir, ni vous sauver. Mais la plus terrible conséquence de l'incrédulité se trouve dans le châtiment qui vient. Whitefield, ce grand homme de réveil du 18e siècle, avait l'habitude d'élever les deux mains et de crier comme je voudrais pouvoir le faire, mais sans avoir la voix ni l'onction suffisante. La colère à venir, la colère à venir. Ce n'est pas la colère maintenant que les incrédules ont à craindre spécialement, mais celle qui est à venir. Car il y a une colère à venir où cette parole s'accomplira. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Ah, il me semble voir le dernier grand jour. La dernière heure du temps est passée. J'entends l'horloge rendre l'âme. Le temps est achevé C'est l'éternité qui commence. La mer est en ébullition, les vagues sont éclairées d'une splendeur surnaturelle. Voici un arc-en-ciel, des nuées de gloire. Et sur celle-ci, un trône, sur lequel est assis quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Ah, je le connais. Dans sa main, il tient une balance. Juste devant lui, des livres, parmi lesquels celui de la vie et celui du souvenir. Ah, quelle splendeur réjouissante! Comme il mérite d'être admiré par tous ses saints, et glorifié et adoré sans mesure. Mais voici une foule de misérables recroquevillés d'horreur pour se cacher eux-mêmes, et pourtant ils regardent, car ils doivent regarder vers celui qu'ils ont percé. Les voilà qui s'écrient « Cachez-nous loin de sa face ! Rocher tombé sur nous, cachez-nous loin de sa face !» Quelle face ! La face de Jésus, celui qui est mort, ressuscité, et qui vient maintenant pour juger les vivants et les morts. Mais vous ne pouvez pas vous cacher loin de sa face. Il faut que vous le voyiez de vos yeux, et que vous voyiez ce qui va se produire. Mais vous ne vous assiérez pas à sa droite, revêtu des vêtements de gloire, comme les vrais croyants et les fidèles le feront. Et quand la procession triomphale de Christ viendra sur les nuées, vous n'y marcherez pas. Vous le verrez, mais vous n'y serez pas. Depuis le terrible lieu où vous serez, oui, vous le verrez. Ah, comme les croyants applaudissent, comme ils chantent le cantique merveilleux. Alléluia, le Seigneur Tout-Puissant règne. Considérez la splendeur de leur apparence, la gloire qui est la leur. Voyez la couronne sur leur front, l'autorité qui émane d'eux. Oh, leurs vêtements blancs comme neige, d'une extraordinaire pureté. Oh, l'allégresse de leur attitude, leur joie débordante et glorieuse, comme l'Éternel se réjouit en eux, et comme ils le bénissent sans mesure. Mais vous, où êtes-vous pendant tout ce temps? Vous pouvez les voir, mais où êtes-vous? Vous regardez de vos yeux, mais vous n'en mangerez point. Le banquet des noces de l'agneau est prêt, quel délice sans pareil! Les vins vieux de l'éternité sont préparés, quelle libation sans précédent! Ils s'asseyent à la fête de leur roi, quelle célébration dépassant toute chose! Mais vous voici, misérables, affamés, et vous ne pouvez en manger. Oh, comme vous tordez les mains! Ah, si seulement vous pouviez en avoir un petit morceau! Si vous pouviez être comme des chiens sous la table pour manger les miettes de la table du maître! Quel terrible état que celui de la perdition! Et certainement, ce message, qui est certes tout à fait solennel, nous montre l'importance de rejeter, de confesser et d'abandonner l'incrédulité pour recevoir Christ. Comme il faut que vous preniez ces choses à cœur, que vous veniez à Jésus, que vous lui confiez que vous le preniez comme votre sauveur et votre Seigneur, que vous le fassiez dès maintenant sans plus hésiter et sans plus tarder, et que vous le fassiez de tout votre être pour que cette œuvre de foi véritable puisse s'opérer en vous, avoir tout son effet, que l'incrédulité soit chassée, bannie, et que l'œuvre bénie du Seigneur, les plans bénis du Seigneur puissent s'accomplir pour vous. Amen. Te remercions, Seigneur notre Dieu, parce que tu es toujours le même, parce que ta parole est vivante et efficace, parce que par son moyen tu veux encore accomplir ton œuvre, parce que tu nous rappelles, au-delà des choses de la terre, ce qui est éternel et ce qui est primordial, ce qui est vital pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur, et béni sois-tu, parce que maintenant encore, eh bien c'est toi qui accueilles ceux qui veulent rejeter leur incrédulité, ceux qui la confessent, ceux qui s'en repentent, ceux qui volontairement s'en détournent et l'abandonnent, pour venir à toi par la foi, pour tendre leurs mains, pour tendre leur âme et leur cœur vers toi, et dire « Oh Jésus, je ne veux plus me confier qu'en toi ». Dans ton œuvre accomplie à la croix, dans l'œuvre bénie pour mon salut, et dans ta vie, et dans ta sagesse, et dans ta parole, et dans ta puissance pour être ainsi conduit par toi dans toute la suite de mon existence ici-bas. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà mes amis, mes frères et sœurs. Nous avons encore simplement quelques annonces. Je vous rappelle que nous poursuivons, Dieu voulant, samedi, à 14h30, l'évangélisation dans les villages. Donc ça se fait toujours dans les boîtes aux lettres. Le culte de dimanche pourra se tenir à 8h30 et ensuite à 10h45. Si vous avez le désir d'y participer, n'oubliez pas de vous inscrire rapidement sur le site ou par téléphone. Nous envisageons aussi, dimanche à 16h, dimanche 24 à 16h, une réunion de préparation au baptême. Ça concerne ceux qui ont des questions à ce sujet et ceux qui ont le désir de se faire baptiser, ainsi d'ailleurs que ceux qui viennent de se faire baptiser il y a quelques jours, s'ils sont disponibles, ils en retireront le plus grand profit. La réunion de prière doit se tenir mercredi prochain à 16h, toujours 16h pour l'instant à cause du couvre-feu, et des baptêmes sont prévus le dimanche 31, donc dans 8-9 jours, à 16h également dans l'église. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde en lui, béni soit son nom. Amen.